d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Ce soir, c'est l'émission Secret de fabrication avec les inspecteurs du travail. Mais notre cher ami Bob est encore sur la route. Je prends donc sa place pour quelques instants. C'est Gilles au micro et Claude à la technique. C'est une émission sur le sexisme et le harcèlement au travail. Harcèlement moral et sexuel, bien sûr. Les patrons s'autorisent de faire sur leurs salariés un certain nombre de choses pour les stresser au travail. Plus d'heures, ils leur donnent beaucoup d'heures pour travailler. Ils les incitent à faire plus de travail. Ils licencient des personnes pour que les personnes qui restent travaillent pour 3 ou 4 personnes. Voilà. Donc c'est une charge de travail énorme pour les salariés, du privé comme du public. Souvenons-nous également des suicides qui se sont déroulés à La Poste et également à France Télécom. Ce soir donc, c'est une émission spéciale sur le sexisme et le harcèlement au travail, avec normalement bientôt un invité par téléphone qui devrait nous appeler. En attendant, nous vous passons une petite chanson.
Ah bonsoir, excusez-moi, hein, j'étais pris en retard.
Je vous en prie.
Oui, oh bah ça y est, maintenant c'est bon, nous sommes enfin prêts. Alors oui, bah nous avons souhaité vous faire intervenir ce soir, donc oui. Monsieur Minet, parce que bon, on fait tous les ans, on fait une émission spéciale sur les droits des femmes dans l'entreprise.
D'accord.
Donc je pense que vous étiez tout indiqué, hein, puisque vous avez récemment donc participé à des travaux qui ont abouti à la publication d'un rapport. Et qui de même a donné comme suite, bien sûr, des prises en compte par des projets de loi récents, par des lois qui viennent d'être votées, et que tout ça normalement, alors c'est justement de ça dont on va discuter, doit normalement faire évoluer dans le bon sens, j'aurais dire le respect des droits des femmes dans l'entreprise. On va dire au sens large sur une variété de problèmes, n'est-ce pas?
Oui, de manière globale.
Voilà,
de
c'est ça.
Globale, enfin je. Oui, comme d'autres, j'ai participé depuis plusieurs décennies à toute une série d'initiatives. Hein. C'est pas récent, c'est quelque chose qui se construit dans le temps.
Et donc les derniers développements. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. J'imagine que c'est globalement positif qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place plutôt que rien.
Ah non, mais il y a des choses qui sont mises en place depuis 1919.
D'accord. On va commencer par là, alors.
Oui, parce que, en fait, 1919, c'est une date importante. C'est notamment une date importante parce que c'est l'année de création de l'Organisation internationale du travail.
OK.
Et cette année,
on est aux bases.
C'est les 100 ans de l'Organisation internationale du travail.
C'est vrai.
Et quand l'OIT a été créée, donc c'est après une catastrophe humaine, c'est après la Première Guerre mondiale, il y a une idée qui est extrêmement forte et qui demeure tout à fait puissante, c'est qu'il ne peut y avoir de paix durable sans justice sociale.
Mm-hmm. La déclaration de Philadelphie.
Oui, alors repris dans la déclaration de Philadelphie en 1944. Bravo. Et pour assurer la justice sociale, nous sommes en 1919. Mm-hmm. Il y a 9 principes fondamentaux qui sont posés. Et il y en a un qui est extraordinairement novateur pour l'époque. C'est qu'on doit assurer l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Et donc, ce qui est fondamental ici, c'est la notion de travail de valeur égale. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que les femmes et les hommes font, à cette époque encore davantage qu'aujourd'hui, rarement le même travail. Mm-hmm. Et quand les femmes et les hommes font le même travail, de fait, ils ne font pas exactement les mêmes choses et on ne leur confie pas exactement les mêmes tâches. Donc les rédacteurs du texte, c'est le traité de Versailles, fort critiquable par ailleurs, mais les rédacteurs du traité de Versailles, sur ce point, vont considérer qu'il doit y avoir égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Alors que à la même époque, en France, il y avait encore des abattements de salaire.
Alors, tout à fait légaux et intégrés dans toutes les professions, d'ailleurs.
Oui, et qui ont été supprimés
en 1946.
Ce texte de l'OIT, il va être repris par une convention de l'OIT, qui est la convention numéro 100, hein, en 1951. Et cette convention numéro 100 va être ratifiée par la France sans difficulté, mais elle va très longtemps être ignorée parce qu'en France, trop souvent, on néglige les textes internationaux en droit interne. Et cette convention va être reprise par la loi en 1972. Et donc, nous avons dans le Code du travail, depuis 1972, ce principe que l'employeur assure l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail et pour un travail de valeur égale.
Donc je résume jusqu'ici. En 1919, on pose le principe.
Oui.
Puis on attend un petit peu quand même, hein, avant d'en faire une véritable
convention. Il faut que les États soient d'accord.
Oui, c'est ça.
Et les États vont être d'accord après une seconde catastrophe humaine qui est la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
Et donc, à partir de là, se crée ce que l'on appelle le droit international des droits de l'homme, évidemment avec un H majuscule qui englobe à la fois les femmes et les hommes. Et progressivement, un certain nombre d'États vont prendre des initiatives. Et vous voyez, ça prend du temps parce que c'est inscrit dans la loi en France en 1972.
Oui, tout à fait.
Et donc, le principe, depuis 1972, bon, c'est une obligation légale. Si on veut reprendre des mots qui sont très utilisés aujourd'hui dans les médias, qui sont pas très satisfaisants sur le plan juridique, mais bon, que l'on peut comprendre que pour des raisons de communication, ils soient utilisés. En fait, il y a une obligation d'assurer l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes depuis 1972, c'est-à-dire qu'il y a une obligation de résultat depuis 1972.
Une obligation de résultat. Ah ben, on en est loin, là, en fait.
Et bien sûr qu'on en est loin. Et on a donc fixé cette obligation légale que l'on peut, je vous dis, hein, c'est, juridiquement c'est pas juste, mais que en termes de communication on peut appeler une obligation de résultat, parce qu'évidemment toute loi a des objectifs et elle souhaite que les objectifs soient atteints. Et qu'est-ce qui se passe depuis 1972 ? Eh bien depuis 1972 il se passe beaucoup de choses, c'est-à-dire que progressivement on va élaborer des outils. Mais la difficulté, c'est qu'évidemment, ces outils doivent être mis en œuvre. Alors, je sais pas, je vous en cite quelques-uns.
Hein.
Notamment la loi Roudy de 1983, qui va être très importante, puisque, en fait, elle va nous donner des critères pour apprécier ce qui est un travail de valeur égale. Elle va fixer une obligation de faire une sorte de bilan dans l'entreprise, sur où on en est, et puis elle va prévoir des actions positives. Mais ces textes vont avoir quelques difficultés à être mis en œuvre, sauf devant les tribunaux, puisqu'on va avoir quelques affaires intéressantes. J'y vais à très grande
étape. Bien sûr.
Hein. En 2001, on va avoir une obligation, c'est la loi Génisson, une obligation de négocier dans toute entreprise où il y a une organisation syndicale.
Donc sur cette question-là.
Sur cette question de l'égalité entre femmes et hommes. Donc ça, c'est évidemment très important. On va réexaminer les informations que l'employeur doit communiquer en matière d'égalité entre femmes et hommes, et on va prévoir par exemple un rapport annuel sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise.
D'accord.
Qui va porter sur toute une série de questions depuis le recrutement jusque aux rémunérations et encore d'autres questions.
Oui,
on va retrouver
Je vous interromps juste parce que le prévoir des rapports, c'est une chose.
Oui.
Hein. Après, on sait que le diable se niche dans les détails. Encore faut-il que le contenu du rapport soit suffisamment encadré. Est-ce qu'on approche de ça maintenant ?
Oui, alors on approche de ça depuis très longtemps. C'est pas
d'accord.
C'est-à-dire qu'on a des textes qui sont bien rédigés depuis plusieurs années, qui prévoient toute une série d'obligations. Alors vous avez raison, il faut que les textes soient suffisamment précis. La difficulté, c'est qu'il faut que les textes soient respectés.
Oui.
C'est-à-dire que la loi prévoit des rapports, prévoit des informations qui doivent figurer dans la base de données économiques et sociales, pour reprendre le vocabulaire depuis la loi de 2015, notamment. Mais encore faut-il que ces rapports soient établis. C'est de plus en plus le cas, mais ce n'est pas encore le cas partout. Et puis ensuite, et c'est là une des grandes difficultés auxquelles on est confronté, il faut que les acteurs de l'entreprise, c'est-à-dire l'employeur, globalement la direction de l'entreprise, les organisations syndicales et les élus travaillent sur le sujet.
Oui.
C'est pas
ça.
Parce qu'un rapport dit qu'il y a des écarts de salaire entre les femmes et les hommes qu'automatiquement il va y avoir une négociation pour supprimer ces écarts.
Et puis par ailleurs, ces rapports, ils donnent lieu à des batailles d'interprétation, j'imagine, parce que
pas énormément.
Pas énormément. Ah
pas
bon.
Énormément. On a dans le rapport annuel sur la situation comparée, donc ce sont des informations maintenant qui sont reprises dans la base de données économiques et sociales, on a des informations notamment en matière de rémunération, puisqu'en fait les rémunérations sont pas les, c'est pas le seul domaine d'inégalité, mais c'est là que se cristallisent toutes les inégalités. Il y a des difficultés parce que le texte prévoit que l'employeur doit communiquer des informations par moyenne ou par médiane. Et c'est évidemment beaucoup plus intéressant d'avoir les informations par médiane que par moyenne.
Alors juste, je précise pour les auditeurs, donc la moyenne étant donc le nombre de, enfin toutes les gammes de rémunération rassemblées et divisées par le nombre de personnes concernées, donc
oui.
C'est voilà. Alors que la médiane, c'est la ligne en dessous et au-dessus de laquelle se situe la moitié des gens, en fait. Elle vient se placer au milieu de l'ensemble des rémunérations, mais pas de la manière de calculer
exactement
la moyenne.
Ça.
C'est vrai que exactement ça donne pas les mêmes informations.
Vous êtes pédagogique. Et donc, en fait, ces informations, elles doivent figurer par catégorie professionnelle, c'est-à-dire par catégorie, notamment, telle que définie par la convention collective. Ça peut pas être simplement les grandes catégories socio-professionnelles. On en parle beaucoup parce que c'est d'actualité, mais il faut toujours se méfier de l'actualité. Il ne faut pas être victime de la dictature de l'actualité.
Mmh.
Les textes qui ont été élaborés, donc la loi du 5 septembre 2018 et le décret de janvier 2019, vont dans le bon sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils s'intègrent dans toute cette panoplie d'outils.
D'accord.
C'est un nouvel outil.
Est-ce qu'ils sont... Alors, on va reprendre la même question, poser un peu différemment. Est-ce qu'ils sont un pas significatif quand on les compare à la gamme de choses qui ont été appliquées, qui ont été amenées?
Ils sont un pas, comme l'ont été les pas précédents.
D'accord.
C'est pas quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens de mieux connaître la réalité, c'est-à-dire un diagnostic un peu plus précis, notamment sur la question des rémunérations.
D'accord.
Mais la difficulté, si vous voulez, c'est que on ne peut pas regarder un texte de manière isolée. C'est-à-dire que quand un texte apparaît, il faut le replacer dans son environnement.
Oui.
Et depuis les ordonnances de l'automne 2017, de réforme du Code du travail, il y a toute une série de dérogations qui sont possibles. Enfin, le mot n'est pas très juste sur le plan juridique, mais c'est pour se faire comprendre. Il y a toute une série d'aménagements des obligations légales qui peuvent être mises en œuvre au sein de l'entreprise.
Oui.
Autrement dit, on avait jadis une obligation de négocier sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et cette obligation, elle était annuelle.
Elle faisait partie des négociations annuelles obligatoires.
C'est ça. Mmh. Cette négociation, il était possible qu'elle soit reportée tous les 3 ans, à partir du moment où on avait négocié un accord. C'est-à-dire qu'on avait négocié un accord, on avait conclu un accord. Bon, on ne renégociait pas chaque année l'accord, mais au cours des années suivantes, on regardait comment c'était mis en œuvre, et donc on avait une négociation tous les 3 ans si un accord avait été signé.
D'accord.
Désormais, même si un accord n'a pas été signé, il est possible de prévoir que la négociation dans l'entreprise aura lieu tous les 4 ans.
Ah, donc c'est moins bon.
Eh oui.
Ah oui, c'est sûr que c'est très incitatif pour les employeurs, là, pour le coup, de négocier.
Et donc, suivant les entreprises, parce que les entreprises sont très différentes. Les employeurs sont très différents, il y a des cultures d'entreprise qui sont très différentes, il y a des entreprises où on souhaite réellement aller vers une égalité réelle entre femmes et hommes, et de l'autre côté du spectre, il y a des entreprises où on souhaite surtout ne rien faire.
Oui,
d'accord. Et puis entre les deux, eh bien, il y a toutes les situations intermédiaires. Ce qui est nouveau maintenant, c'est qu'on va pouvoir négocier dans l'entreprise les modalités de la négociation. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà, j'allais vous le dire.
Pardon ?
J'allais vous le demander.
Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on peut négocier maintenant toute une série d'obligations. Est-ce que la négociation va être annuelle, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 4 ans ? Ben, c'est possible de signer un accord en la matière. Est-ce que les informations en matière d'égalité femmes-hommes vont reprendre les obligations prévues dans le Code du travail, ou est-ce qu'on va prévoir plus, ou est-ce qu'on va prévoir moins ?
D'accord.
Ça, c'est possible maintenant.
Mais alors, si là-dessus, parce que nous, on essaie de traiter dans cette émission, j'élargis un tout petit peu, on essaie de traiter dans cette émission, la vie dans l'entreprise, y compris les outils dont on dispose dans l'entreprise pour établir un domaine vivable, quoi, hein, dans l'entreprise.
Oui,
c'est pas toujours évident. La question, donc, si je comprends bien, la balle est dans le camp des organisations syndicales, puisque.
Très fortement.
C'est ça.
Alors, la balle est dans le camp, en fait, des acteurs de l'entreprise.
Oui.
Et en premier lieu, c'est l'employeur et les organisations syndicales, puisqu'en fait, dans chaque entreprise, la nouveauté, j'essaye de ne pas être trop technique, hein, mais sur toutes ces questions, jusqu'à présent, nous avions des obligations légales.
Oui.
Notamment en matière de dialogue social, d'égalité femmes-hommes, nous avions des obligations légales, plus ou moins bien respectées, mais nous avions des obligations légales, et on pouvait conclure des accords pour prévoir des choses plus favorables que la loi.
Oui.
Désormais, l'architecture est complètement bouleversée depuis la loi Rebsamen de 2015, puis la loi Valls-El-Khomri de 2016, puis les ordonnances de 2017.
Tout à fait.
Ces textes sont en fait dans la même lignée. Hein.
Pas de problème, parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a suivi au fur et à mesure de l'émission.
Parfait.
Les auditeurs de l'émission entendront le rappel, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas en terrain inconnu, là.
D'accord, les auditeurs puissent réellement bien suivre. Donc, désormais, on a des règles légales minimales sur ces questions de dialogue social dans l'entreprise. Mais ces règles légales dans le Code du travail, ces règles légales minimales, elles ne sont pas suffisantes pour pouvoir négocier. C'est-à-dire qu'elles ne nous disent que quelques petites choses. Elles ne nous disent pas tout ce qui est nécessaire de connaître. Et donc, ça veut dire que ces règles légales, elles doivent être complétées. Doivent être complétées par quoi ? Elles doivent être complétées et où ? C'est là qu'est la difficulté, une des nombreuses difficultés. Elles doivent être complétées par un accord d'entreprise.
Mmh.
Et là, je parle d'un accord d'entreprise qui porte sur le dialogue social, qui va être plutôt un accord d'entreprise qui va aller dans le sens d'améliorer la qualité du dialogue social, ou qui va plutôt aller dans le sens de restreindre le dialogue social.
C'est ça. Et la possibilité existe.
Et ensuite, si on n'a pas d'accord d'entreprise, ou bien si on décide de les appliquer, on a des dispositions supplétives de la loi, c'est-à-dire que la loi dit un certain nombre de choses si on n'a pas eu d'accord d'entreprise.
Donc
en fait, on a, en résumé, trois démarches. On a les entreprises, quand je dis les entreprises, c'est à la fois les employeurs et les délégués syndicaux. On a les entreprises où on se dit, bon, allez, on avait un dialogue social qui était globalement satisfaisant, on va essayer de le maintenir, c'est-à-dire qu'on va respecter les règles d'ordre public, on n'a pas le choix, on va appliquer les dispositions supplétives de la loi, et puis on va signer un accord d'entreprise pour essayer de compléter tout ça.
Mmh.
Ça, c'est une première démarche. Il n'y a pas d'hiérarchie dans mes trois démarches, hein, c'est
schématique. Oui, oui.
On a une deuxième démarche qui est de dire, on va saisir l'occasion pour réduire le dialogue social, c'est-à-dire qu'on applique les règles d'ordre public, et puis on signe un accord d'entreprise qui va être en deçà des dispositions supplétives de la loi. Et donc, on va avoir moins de négociations, des négociations moins fréquentes, moins d'informations à donner, etc. Et puis, on a une troisième démarche qui est de dire le dialogue social dans l'entreprise, c'est quelque chose qui permet à tous les acteurs de vivre mieux. Donc, on a une démarche vertueuse où on va signer un accord d'entreprise, mais lui, l'accord d'entreprise, il va aller au-delà du minimum qui est prévu par la loi.
D'accord.
Et entre ces trois schémas, on a évidemment toutes les situations intermédiaires possibles.
Alors c'est pour ça, moi, que je disais justement que la balle est vraiment dans le camp des organisations
oui.
syndicales aux différents niveaux, parce que en fonction de si les équipes syndicales sont motivées par cette question, porteuses de cette démarche ou pas, il y aura une négociation qui sera bonne, ou on va dire moins bonne, ou malheureusement des fois aussi inexistante, sur cette question des inégalités hommes-femmes, en fait. Ça
oui,
sera plus ou moins
ça.
Dynamique non. sur le degré d'investissement aussi des organisations syndicales dedans.
C'est ça. Alors, c'est en deux temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une première négociation sur comment on négocie dans l'entreprise.
Oui,
d'une certaine manière, une négociation sur le dialogue social, alors qu'il
cadre.
Faut couvrir toutes les questions. Hein. Absolument toutes les questions. Et puis ensuite, on a une seconde négociation qui va porter spécifiquement sur tel ou tel sujet. Alors ce soir, on parle de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Mmh.
On pourrait également discuter de la santé-sécurité, de la gestion prévisionnelle des emplois, etc.
Alors, c'est justement là-dessus. Moi, je voulais aussi rebondir sur une deuxième, on va pas dire une deuxième batterie de textes, mais il y a la lutte contre, on va dire, les discriminations hommes-femmes sur le lieu de travail, un peu plus généralement que la question de l'inégalité. Il y a eu aussi, donc, des choses qui ont été mises en place dans le courant de l'année dernière, complété d'ailleurs récemment, sur c'est plus de l'égalité de rémunération, mais il y a une question de l'égalité de conditions, puisque le dispositif était supposé renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes,
oui.
hein, et contre le harcèlement notamment sexuel au travail. Et là aussi, est-ce qu'on a fait, alors dans le même ordre d'idée, alors il y a une il y a là aussi on pourrait aussi parler rapidement de là aussi un ensemble de dispositifs qui se sont progressivement mis en place pour cerner cette question. Est-ce que là aussi on fait un pas en avant?
Alors simplement pour rappeler que on parle pas simplement d'égalité de rémunération, mais on parle de l'égalité dans l'emploi et le travail sur toutes les questions depuis 1983. D'accord. Et que les directives européennes en la matière datent de 1976.
D'accord.
C'est simplement pour qu'on soit pas enfermé dans l'actualité et enfermé dans le dernier texte. Parce qu'il faut, vous avez raison, il faut connaître le dernier texte, mais en même temps, il faut connaître son environnement.
C'est ça.
Et on a eu un certain nombre de choses tout à fait, enfin, qui sont allées dans le bon sens. Il se trouve que moi, je suis un ancien inspecteur du travail. On a eu les premières lois en matière de harcèlement sexuel, par exemple, sur le lieu de travail, dès 1992. Et en 1992, on a un autre élément qui est très important, c'est qu'on a eu une loi, c'était une des lois Aubry, sur le droit d'alerte en matière de droits des personnes.
D'accord.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un texte qui est encore relativement peu connu, même s'il est mis en œuvre quand même parfois. Ça veut dire que les délégués du personnel, et à partir de cette année, et surtout à partir du 1er janvier 2020, les élus titulaires au comité social et économique,
sont tous.
Ces élus peuvent mettre en œuvre un droit d'alerte en cas de discrimination, en cas de harcèlement sexuel, en cas d'agissement sexiste.
Qui fait partie, alors, juste, on a parlé déjà dans cette émission, puisqu'on parle de ces, on essaie d'aborder ces sujets-là aussi, hein, les capacités d'action dans l'entreprise. Donc on a parlé du droit d'alerte d'épée.
Oui.
D'accord. C'est de celui-là dont il s'agit ou c'est un autre spécifique?
C'est celui-là. En fait,
d'accord.
Il y a trois droits d'alerte. Il y a le droit d'alerte, alerte économique.
Oui.
Qui était classiquement le droit d'alerte du comité entreprise. Il y a le droit d'alerte danger grave et imminent qui était le droit d'alerte du CHSCT. Et il y a le droit d'alerte droit des personnes qui était le droit d'alerte des DP.
D'accord. Alors, c'est juste pour rappeler la procédure, on en avait déjà discuté dans l'émission, mais c'est assez rapidement. Le DP, en fait, somme l'employeur de s'expliquer sur une atteinte au droit d'une personne puisqu'il a été saisi lui-même. Et l'employeur a un délai contraint pour répondre. C'est ça, hein. Sinon, ça va même jusqu'à l'inspection du travail qui peut intervenir.
Alors, oui. Alors quelques précisions.
Oui.
En fait, le délégué peut se saisir lui-même ou être saisi par un salarié sur toutes les questions en matière de droits des personnes, c'est-à-dire en fait droits des personnes dans le code du travail, c'est les droits de l'homme.
C'est ça.
C'est-à-dire tous les libertés, les droits fondamentaux. Le texte du code du travail est très bien rédigé. Il nous dit que le DP saisit immédiatement l'employeur.
Oui.
Donc le DP a une obligation de faire,
oui.
Et l'employeur, sans délai, fait une enquête avec le DP. Donc ils ont une obligation d'intervenir tous les deux, de manière conjointe. Donc on va voir des personnes, on va sur les lieux, on consulte des documents, on travaille, on fait une enquête.
C'est une obligation de faire immédiatement.
Il y a une obligation de faire immédiatement. Et à l'issue de cette enquête, eh bien, l'employeur doit normalement prendre les mesures nécessaires pour faire cesser la discrimination, le harcèlement, l'agissement sexiste, etc. Donc tout ça, c'est 1992. D'accord. La première mise en œuvre, c'est une affaire qui avait été assez mal médiatisée, mais qui était une affaire importante. C'était en 1996, la première décision de justice qui a été rendue. Alors pourquoi décision de justice? Parce qu'il y a deux étapes dans ce droit d'alerte. Il y a le droit d'alerte à l'intérieur de l'entreprise, et dans un certain nombre de cas, ça suffit. C'est-à-dire qu'à l'issue de l'enquête, bah, par exemple, l'employeur et le délégué sont d'accord sur la réalité de l'atteinte, ils sont d'accord sur les mesures à mettre en œuvre, l'employeur met en œuvre les mesures, et donc l'action a été efficace. Le problème est réglé. Et puis, il y a des situations moins vertueuses, où l'employeur ne fait pas l'enquête, où l'employeur ne prend pas de mesures, où l'employeur prend des mesures qui ne correspondent pas à la situation, ou éventuellement qui ne correspondent pas à ce que le délégué peut considérer comme étant nécessaire. Et dans ce cas, le délégué a la possibilité, c'est tout à fait unique, de saisir le bureau de jugement du Conseil de Prud'homme.
C'est ça.
Et c'est le bureau de jugement du Conseil de Prud'homme qui va ordonner à l'employeur, le cas échéant, toute mesure pour faire cesser la discrimination, l'atteinte le harcèlement, etc.
C'est pour ça que c'est bien pensé. C'est-à-dire
c'est
que
très bien fait.
Ouais, c'est bien pensé parce que là, pour le coup, il y a, il présume que la situation va trouver une solution négociée.
C'est ça.
Mais l'EDP a quand même une capacité propre de faire avancer les choses par une procédure en urgence.
Et ce droit d'alerte EDP a failli disparaître dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Mmh.
Dans les premiers textes des ordonnances, les entreprises de moins de 50 avaient été oubliées. Et donc, on a été quelques-uns à aller rencontrer quelques parlementaires. Et on a eu quelques amendements déposés. Et d'ailleurs, ça a été voté de manière très large par tous les groupes.
D'accord.
Donc ça, c'est un outil extrêmement efficace. Et donc, ce qui est rajouté aujourd'hui dans la loi, c'est un peu un prolongement de tout ça.
Mmh.
C'est-à-dire qu'on prévoit, par exemple, que parmi les élus au comité social et économique, il y en a un qui va être plus ou moins le référent en matière de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste. Ça va dans le bon sens, mais c'est un petit peu étonnant cette notion de référent, parce que potentiellement, tous les délégués sont référents.
Oui.
Et donc ça voudrait dire que sur cette question droit des personnes, tous les délégués se forment.
Oui. Alors oui, je vois le risque. Le risque est que, à part le référent qui peut n'être pas là, qui peut, tout le monde, tous les autres s'en laveraient les mains et on.
Voilà. Potentiellement c'est ça. Alors que d'après les textes, tous les délégués sont les délégués aux droits et libertés. C'était la formule de Gérard Lyon-Caen. Hein. Gérard Lyon-Caen était un éminent professeur de droit du travail qui est décédé. Et c'est lui qui avait rédigé un rapport sur les libertés publiques et l'emploi et qu'il avait remis à Martine Aubry en 1991. Et c'est à la suite de son rapport qu'a donc été votée la loi de décembre 92 sur le droit des personnes. Donc le référent, pourquoi pas, ça va dans le bon sens, à condition, comme vous le remarquez très justement, qu'on n'est pas le spécialiste des problèmes des femmes.
Voilà, c'est ça.
Mais tout ça, évidemment, entre guillemets.
Bien sûr, bien sûr.
Que tous les délégués doivent assurer l'égalité. Et c'est bien pour les femmes, mais c'est bien pour les hommes aussi. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter travailler dans une ambiance de travail qui ne soit pas sexiste.
Oui.
Alors, on a eu, désormais, on a une jurisprudence. On a un premier arrêt que vous connaissez peut-être, ou vous en avez peut-être parlé dans une de vos émissions, qui est un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, où il y a eu, pour la première fois en France, une condamnation pour harcèlement sexuel environnemental.
Alors, ça, non, je ne l'ai pas encore... D'accord. Alors, j'avais entendu harcèlement moral environnemental, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres qui visaient plutôt l'organisation du travail dans ce qu'elle pouvait avoir de stressant et de harcelant. Mais alors, harcèlement sexuel organisationnel, en fait, environnemental...
Oui, environnemental, c'est l'environnement de travail, en fait, qui est harcelant, c'est-à-dire c'est un environnement de travail sexiste.
Mm-hmm.
Et donc, c'est une affaire qui a eu lieu dans un organe de presse, dans un journal quotidien régional, concernant les faits, dans une salle de rédaction, eh bien, nous avions toute une série de comportements, de propos qui étaient sexistes, et donc un certain nombre de salariés, et une salariée en particulier, a engagé un certain nombre de procédures en la matière, et la Cour d'appel a suivi ces demandes, et donc l'entreprise a été condamnée pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce harcèlement.
Alors ça, c'est intéressant parce que... Effectivement, on essaie de quand même de, on garde une juste distance avec l'actualité. Je suis d'accord, hein, il faut pas se laisser ensevelir. Néanmoins, il y a quand même l'affaire de la Ligue du LOL qui a secoué Internet ces dernières affaires. Et là, on est dans un, alors sans que ce soit mis en place par une entreprise en particulier ou une direction d'entreprise en particulier, là pour le coup, c'était plutôt quelque chose qui perdurait dans des cercles comme les écoles de journalisme et on va dire les stagiaires de journalisme au début. Hein. C'était des gens qui débutaient tous, la plupart. Là, on a bien un harcèlement sexuel environnemental dans un environnement particulier qui est Internet. Mais on peut pas nier qu'il y avait quelque chose d'un peu structuré, là, pour le coup.
Oui. Alors, j'ai lu des affaires. J'ai lu des informations dans les médias. Je connais pas l'affaire précisément, mais effectivement, ce qui est intéressant dans l'affaire de la Cour d'appel d'Orléans et puis dans d'autres affaires, c'est qu'on n'est plus simplement dans les pressions en vue d'obtenir un acte sexuel non souhaité.
Ouais.
On est véritablement dans un climat de travail.
C'est ça.
Ce qui est intéressant dans
qui cible les femmes, pas forcément quelqu'un en particulier. Là, c'était le cas ou pas?
Non. C'est ça. Et ce climat de travail, bien évidemment, un environnement de travail sexiste, c'est un obstacle à l'égalité professionnelle.
Exact.
C'est un obstacle dans le travail au quotidien, et puis c'est un obstacle en termes de déroulement de carrière et de promotion, parce que les personnes ne sont plus regardées à leur juste valeur sur le plan professionnel. Et puis c'est extrêmement destructeur sur le plan psychologique.
Mais c'est alors, juste pour finir sur la Ligue du LOL, c'est ce qu'ont constaté les victimes de la Ligue du LOL, c'est-à-dire que leur carrière en a immédiatement pris un coup, alors que la carrière de leur persécuteur se déroulait sans un pli, et qu'elles avaient pris, ne serait-ce en dehors des problèmes des graves problèmes psychologiques que ça peut poser, et de toute façon du caractère inacceptable. Au-delà de ça, il y a un vrai enjeu d'égalité, effectivement, entre ceux qui sont victimes et ceux qui peuvent continuer comme si de rien n'était.
Oui, et donc c'est important de rattacher ces questions aussi à la question de l'égalité professionnelle. C'est-à-dire que ce sont des questions d'atteinte à la dignité, ce sont des questions de conditions de travail, ce sont des questions de santé, mais ce sont également des questions d'égalité professionnelle. Les ambiances de travail sexistes s'opposent à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Mmh. Eh ben, c'est une excellente conclusion pour cet exposé. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Minet. C'était passionnant. Comme ça, on a pu aborder ces sujets. Je vous remercie. Si vous voulez ajouter quelque chose...
Non, je crois que c'est bien. On pourrait ajouter beaucoup de choses sur le plan technique, mais je crois qu'on a abordé pas mal de sujets.
Et ça se fait, et ce qui est intéressant, ça confirme des choses qu'on avait déjà vues sur d'autres sujets, qu'on pourrait aborder plus tard, mais ça confirme aussi que c'est un ensemble. Il y a de la pression, il y a de l'application concrète, il y a de la jurisprudence qui vient conforter, etc. Et par couche,
la difficulté sur ces questions, c'est qu'en fait, le nouveau cadre juridique va demander beaucoup plus de travail aux employeurs et aux délégués syndicaux.
Oui.
Donc il y a nécessité de se former.
Tout le monde.
Si je peux dire un mot.
Oui, bien sûr.
Le CNAM, vous savez, est un lieu de partage du savoir depuis la Révolution française, puisqu'il a été fondé en 1794. Et on va lancer, à partir du 25 mars, un MOOC sur le droit européen du travail. MOOC, c'est donc un cours en ligne où on s'inscrit, c'est gratuit. Et on peut, pendant 5 semaines, 10 minutes par jour, suivre une formation en ligne. Et puis, on va avoir un deuxième MOOC qui va démarrer au mois de mai, justement, sur ces nouvelles règles en matière de dialogue social dans l'entreprise, où on abordera notamment la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Sur le site du CNAM.
Sur le site du CNAM.
Parfait.
Voilà.
Eh ben, ça, c'est une bonne chose, une information à transmettre à nos auditeurs.
C'est gratuit, je pense que c'est intéressant.
Ben, merci beaucoup,
Bonne émission.
Ben, merci beaucoup. Et voilà. Et maintenant, une petite séquence musicale pour rappeler, pourquoi nous sommes là ce soir.
Au revoir.
Au revoir. Des femmes, qui est un habitué de l'émission, faut le dire, parce que ça fait toujours du bien de le passer, c'est motivant. Nathalie, tu es en ligne?
Boxard,
pardon. Ah, ça va, on va l'effacer au montage.
Alors, moi, je vais, donc après l'introduction oui. de Michel Minet, donc concernant plus précisément l'égalité de rémunération, mais aussi il l'a rappelé donc dans l'emploi entre hommes et femmes. Mmh. Moi, je vais revenir sur ce qu'on pourrait on pourrait présenter ça comme les forces et faiblesses de la législation sur le harcèlement sexuel au travail aux États-Unis et en France. Depuis le mouvement MeToo et Balance ton porc, comment effectivement on peut considérer que ces mouvements, il y a eu un impact du mouvement MeToo beaucoup plus important sur la législation états-unienne que le mouvement Balance ton porc en France.
Ah, ça a déjà eu un impact visible dans la législation MeToo. Donc aux États-Unis, j'entends. Donc vas-y.
enfin, je vais y revenir.
Ouais.
Mais pour bien comprendre donc les termes de la question, il faut bien distinguer les approches américaines et françaises. Et là, je vais m'appuyer sur le travail que fait une professeure de sociologie et d'études de genre en Californie qui s'appelle Abigail Sagi. Donc aux États-Unis, le harcèlement sexuel bénéficie d'une protection spéciale en tant que discrimination fondée sur le sexe dans le cadre du travail seulement. En France, il est sanctionné par le droit pénal et par le code du travail et a été considéré pendant longtemps comme une forme de violence sexuelle. Et depuis la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 et celle du 8 août 2018 contre les violences sexuelles et sexistes,
donc, elle, on faisait référence
comme le résultat d'un agissement sexiste.
Alors,
ce qui revient enfin à faire apparaître la question des inégalités de sexe au travail.
Alors, c'est-à-dire, parce que il y a une subtilité, à mon avis, faut qu'on la refasse, parce que là, c'est à la radio. Attention, je récapitule, tu me dis si je suis dans le vrai. L'approche états-unienne, en fait, met l'accent sur le caractère discriminatoire du harcèlement sexiste. C'est pour ça qu'elle insiste moins sur est-ce qu'il y a eu volonté de, etc., etc. Il suffit qu'il y ait eu, en fait, situation où l'homme, par son comportement, exerce une discrimination en rabaissant la femme, en fait, pour qu'on soit déjà dans un cas litigieux. Alors qu'en France, comme c'était du pénal, c'était beaucoup plus associé au viol, on va dire, plutôt. Et que donc, on était dans une logique inquisitoire plus proche de l'établissement des faits et non pas du ressenti des victimes, c'est ça?
C'est ça.
D'accord.
Alors, la question de l'agissement sexiste était déjà présente dans le Code du travail.
Oui.
Sauf que là, avec la loi du 8 août 2018, elle met vraiment en avant que ces agissements sexistes découlent d'inégalités de genre, en fait.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est quand même un pas important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, donc, aux États-Unis, les femmes sont quand même sujettes à des obstacles. Hein. C'est pas la panacée idéale en matière
d'égalité homme-femme, en fait. Enfin,
c'est ça. Lorsqu'elles font l'expérience de violence sexuelle au travail, les femmes se tournent plutôt vers la justice civile, hein,
c'est ça.
Parce que au pénal, il faut prouver la culpabilité,
l'intentionnalité,
et surtout que les preuves donc apportées permettent d'aller au-delà du doute raisonnable.
C'est
donc
ça.
Face à ces obstacles, les femmes quand même donc majoritairement du côté de la justice civile. Il est vrai que il y a quand même une appréhension des violences sexuelles au travail qui est datée de 1964 avec la loi sur les droits civils et donc comme tu l'as très bien souligné qui est axée sur la question de la discrimination hein, qui interdit toute discrimination sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de l'origine nationale et du sexe. Néanmoins, si les résultats financiers face à ces actions civiles, les employeurs sont soumis donc lorsqu'ils sont en faute à verser des dommages et intérêts qui peuvent être fixés avec un montant relativement élevé dans la mesure où seule une somme conséquente peut constituer une peine effective pour une entreprise de la taille d'une multinationale, hein. Donc ça, c'est quand même pas rien. Elles ont mis en place donc toute une, elles ont développé des programmes de formation. Donc les entreprises états-uniennes, elles ont développé des programmes de formation spécifiques, renforcé leur direction des ressources humaines et embauché des managers de la diversité afin de traiter les plaintes de harcèlement sexuel. Néanmoins. Et c'est là qu'il y a.
Alors, avant que tu néanmoins, juste, je voulais dire, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà constaté, effectivement. L'efficacité de la démarche civile. Non, mais aux États-Unis.
C'est quand même un peu complexe. Et vu qu'il reste 10 minutes.
Vas-y.
Si tu me coupes, je pourrais pas finir ma.
Vas-y.
Voilà. Donc face à ces obligations qui se traduisent par des versements de dommages et intérêts très élevés aux États-Unis, les entreprises bien évidemment partent à ces coûts peuvent invoquer, si les résultats financiers ne sont pas très bons, la raison économique qui peut conduire donc leurs dirigeants à régler à l'amiable ou couvrir les accusations de harcèlement sexuel plutôt que de le sanctionner ou de licencier les salariés incriminés. C'est ce qui s'est produit dans le cas d'Harvey Weinstein. Voilà. Donc la compagnie Weinstein a versé plusieurs millions de dollars pour régler à l'amiable de multiples affaires. Elle a été, si vous voulez, on peut considérer que le mouvement MeToo a accéléré cette action de l'entreprise qui pouvait effectivement prendre un petit peu plus de temps si elle devait passer par la justice civile.
C'est ça. Il fallait absolument qu'elle solde les comptes, quoi, parce que là, elle était trop ciblée, quoi, à ce moment-là.
Bah, de toute façon, elle a été condamnée à verser plusieurs millions de dollars aux victimes de harcèlement sexuel. Mais faut savoir quand même que il peut y avoir donc à la place du jugement et de la condamnation et des sanctions, il peut par la justice, il peut y avoir donc effectivement compensation financière directe de l'entreprise.
Oui.
Voilà.
C'est ça. Ok.
Voilà, ce qui effectivement permet aussi aux tribunaux parfois de se décharger des contentieux en cours. Alors, avec 10 minutes, je vais essayer de développer comment les choses apparaissent différentes en France. En France, le problème, c'est que, Monsieur Minet a bien rappelé, c'est vrai que la première loi à définir donc le fait de harcèlement sexuel est la loi de 1992. Il y a quand même un abîme temporel entre 64 et 92. Et elle le fait parce qu'on est dans un contexte où le droit communautaire et donc des directives qui portent sur l'égalité professionnelle entre hommes et femmes font qu'il y a nécessité à agir. L'Union européenne est parmi les premières institutions à considérer aussi les questions de discrimination. Et donc c'est le droit communautaire qui va impulser, ce mouvement législatif qui démarre donc au début des années 90, mais qui reste très insatisfaisant, puisque on a une définition du harcèlement sexuel très pauvre, et qui fait que les juges doivent tirer à gauche et à droite pour voir comment ils se démêlent de problèmes liés aux violences sexuelles et sexistes au travail.
Michel Minet disait c'était le début, c'était à la peine l'ébauche de ce qu'il aurait fallu faire. Est-ce que tu penses qu'on a bien avancé là maintenant là-dessus par rapport à ce premier truc insatisfaisant, effectivement, qui était vraiment une définition minima?
Je pense que Monsieur Minet a répondu à cette question-là.
Ouais.
C'est vrai qu'il est quand même plus intéressant de voir un peu le rapport de force, en fait, entre la société et le droit, et le droit français, et évidemment comment ce rapport de force a lieu principalement au banc de l'Assemblée nationale, où se discutent les lois qui y sont votées.
Ouais.
Et on reste donc sur une définition très très insatisfaisante du harcèlement sexuel, ce qui fait que donc il y a une nouvelle loi en 2012 qui donne une définition beaucoup plus précise du harcèlement sexuel dans le code pénal, qui contient deux délits. Et là, contrairement au harcèlement moral, et ça a été une bataille, le harcèlement sexuel peut être constitué même en l'absence de répétition de l'agissement incriminé.
Exact.
C'est-à-dire que le fait unique peut obliger le juge à agir. Mais là encore, il y a une grosse insatisfaction des féministes et des juristes avocats féministes quant à cette définition. Néanmoins, cette loi de 2012 a quand même l'avantage de donc d'intégrer une nouvelle infraction et d'insérer donc dans le code pénal la prohibition des discriminations suite à des actes de harcèlement sexuel et même en dehors du cadre des relations de travail. Donc c'est quand même un des principaux apports de la loi. Donc à partir de ce moment-là, on a une nouvelle définition du harcèlement sexuel, beaucoup plus précise et beaucoup plus sévère en termes de sanctions applicables aux auteurs, avec effectivement un niveau de sanctions échelonné sur trois niveaux, avec des condamnations qui peuvent aller jusqu'à 15 000 euros. Par ailleurs, mais là encore, alors Monsieur Minet, donc je tiens quand même à réagir à ce qu'il a dit là.
Oui.
Il a dit oui. Alors c'est vrai que en France, on n'a pas ce qu'on appelle les droits punitifs aux États-Unis, qui permettent effectivement aux victimes d'avoir des compensations immédiates.
Oui.
Les femmes, donc, au vu de ces définitions imparfaites du harcèlement sexuel et donc l'implication que ça a dans les cours de justice,
ouais.
Donc elles vont aussi, comme il l'a dit, se tourner sur. Donc c'est vrai que le Conseil des prud'hommes donc intervient.
Oui, c'est ça.
Sur ces questions, sur les questions d'obligation générale de prévention de l'employeur, des risques professionnels dans l'entreprise, et aussi donc sur les questions de rupture du contrat de travail.
Okay.
Donc suite à des faits de harcèlement sexuel.
Alors attends, mais là si j'ai bien compris, il reste pas 5 minutes, il reste 1 minute même pas. Il va falloir que je rende l'antenne, mais justement tu viens d'introduire des sujets sur lesquels nous allons continuer si j'ai bien suivi, parce que bon, on avait constaté avec Monsieur Minet, on le voit bien avec toi aussi, ce sujet de l'égalité homme-femme dans toutes ses dimensions dans l'entreprise, c'est pas quelque chose qu'on va épuiser en une émission. Donc on avait dit on en garde sous le pied, pas vrai?
Oui. Ah bah, je voulais juste dire que dans les faits,
ouais.
Peu de cas aboutissent à des condamnations quand on passe par le Conseil des prud'hommes.
Ouais.
Et encore une fois, et je finirai là-dessus, c'est surtout la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait que les choses avancent.
Oui. Oui, effectivement.
Mais il est certain qu'on est loin des États-Unis en termes que les employeurs français ne se sont pas appropriés du tout l'enjeu du harcèlement sexuel, comme leurs homologues états-uniens. Ils n'ont pas développé de formation, ils n'ont pas développé. Enfin, il n'y a pas, encore, même avec les derniers textes, on n'a pas d'incitation forte qui permet de rattraper cet écart avec les États-Unis. Même si, encore une fois, aux États-Unis, c'est pas non plus la panacée.
D'accord. On reviendra là-dessus parce que c'est aussi quelque chose sur lequel Monsieur Minet avait insisté. Maintenant, le travail de formation, il est devant tout le monde. D'où raison de plus de revenir sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, on va revenir sur deux choses. On reviendra en plus en détail sur l'inégalité, effectivement, et les recours juridiques qu'on peut avoir dans ces situations-là. Et en parlant de recours juridiques, on verra probablement aussi dans une autre émission ce qu'on peut faire en cas de licenciement ou pourquoi la rupture du contrat de travail est plus fréquente, moins bien protégée, etc., etc. Donc
oui, parce que alors là aussi on est face à une aberration.
À des aberrations.
Le cas nullité.
Il faut que je rende l'antenne, Boxard. Donc on s'engage. On n'a pas laissé ces sujets en l'air, pas vrai. Ils vont revenir dans les émissions suivantes, n'est-ce pas?
Voilà, parce qu'on reprendra sur les inégalités salariales.
Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt, merci encore.
Ciao.
Je vous vois encore. corps en robe d'été, blanche et jaune avec des fleurs de rideau. Mais vous n'aviez plus l'humide gaieté.